Donc maintenant, on a Benoît Amiot et Lucas Farré qui vont présenter Icebox.
Okay. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. On va vous faire une présentation sur Icebox. Donc, c'est un framework d'analyse de malware par introspection de machines virtuelles. Et on va essayer de vous montrer pourquoi l'introspection à travers les machines virtuelles, la VMI, c'est très intéressant pour l'analyse de malware. Donc Icebox, c'est une solution qu'on a développée au cours de l'année à Thallium. Donc une solution complète d'introspection de machines virtuelles, ce qu'on appelle la VMI, Virtual Machine Introspection, une solution adaptée. Pourquoi ? Pour l'analyse de malware, on va tout de suite voir les problématiques qu'on a avec ça. Donc, d'abord un petit peu le plan. Donc, on va essayer de voir la problématique liée à l'analyse de malware. On va s'intéresser à l'état de l'art, qu'est-ce qu'on peut trouver notamment en open source pour faire de l'introspection justement. On va ensuite présenter notre approche, qu'est-ce qui nous distingue et quels sont nos points forts et nos avantages, avec ensuite une présentation de l'architecture de Icebox. Et enfin, le gros de la présentation, on va vous montrer un exemple d'analyse, justement en utilisant ce framework-là, sur le ransomware NotPetya, qui a un peu fait défrayer la chronique il y a quelques années. Et enfin, on terminera par les perspectives et les conclusions, les limitations du framework, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et une conclusion. Donc la problématique de l'analyse de malware, c'est que généralement on fait tourner en fait les outils d'analyse au même niveau de privilège que le malware. Donc par exemple pour un système, on va avoir le malware qui tourne dans la partie userland, la partie applicative, et les outils qui vont tourner au même niveau, par exemple Procmon. Et donc le problème de ça, c'est que le malware en fait va pouvoir déployer tout un ensemble de méthodes, notamment pour se cacher, pour modifier son comportement, ou pour alors tout simplement corrompre l'état du système sur lequel il tourne. Alors une solution qu'on aurait pu envisager, c'est de se dire bon bah on va passer au niveau noyau, on va mettre nos outils au niveau noyau, au niveau du système qu'on analyse, mais même ça c'est toujours pas suffisant parce que souvent les malwares en fait arrivent à exploiter des vulnérabilités et s'installer eux-mêmes au niveau du système. Donc on a toujours ce même problème, on n'a pas le niveau de privilège supérieur au malware, donc tout ce qu'on peut faire, le malware peut le contourner, l'éviter ou le supprimer. Donc ça c'est une petite liste en fait de tout ce que peut faire un malware pour contourner la détection, détecter où il est ou modifier son comportement. Donc tout simplement déjà des techniques d'anti-debug, de l'obfuscation, le malware peut avoir du code auto-modifiant pour complexifier l'analyse statique, avoir des systèmes de packer avec des systèmes de vagues pour, encore une fois, complexifier le travail de l'analyste. De la même façon, le malware peut corrompre l'environnement sur lequel on s'exécute. Un cas classique, c'est les ransomware qui viennent chiffrer les fichiers sur le file system en cours. Le malware aussi peut détecter les outils que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez des registres hardware pour poser des points d'arrêt, le malware peut détecter cette méthode-là et donc modifier son comportement. Et enfin, en fonction du système sur lequel on analyse, il peut exister un système de protection tout simplement au niveau noyau. Donc, par exemple, sous Windows, ça s'appelle le kernel patch protection ou patch guard pour ceux qui connaissent. Et donc, patch guard en fait va vous empêcher d'aller aussi loin que vous le souhaitez au niveau de l'analyse du système sur lequel vous travaillez. Donc le contournement pour faire ça, c'est de se dire on va faire tout tourner le malware toujours dans le même système sur une machine virtuelle et on va déplacer les outils à l'extérieur de la machine virtuelle. L'inconvénient de ça, c'est qu'en fait vous perdez en fait toute la sémantique et tout le sens qui est lié au système que vous analysez, puisque quand vous interrompez une machine virtuelle, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus dans quel process, dans quel thread, quels sont les modules chargés, est-ce que vous êtes dans le code noyau, est-ce que vous êtes dans le code user, est-ce dans quelle application vous êtes en train de tourner. Donc c'est là en fait qu'on a voulu apporter quelque chose avec Icebox, c'est qu'on va rajouter en fait tout un socle, tout un framework, une API qui va nous apporter la gestion de toutes les entités du système sur lequel on analyse. Donc les entités que ça comprend, à la fois les processus, les threads, les modules de l'application analysée, les drivers, la gestion des symboles pour pouvoir faire correspondre une adresse en dur à une valeur en texte, et enfin la gestion des call stacks pour avoir la liste des appelants lorsque vous interrompez votre système. Et donc l'idée, c'est de baser tous les outils sur ces entités-là pour accélérer et faciliter le travail de l'analyste. Donc au niveau de la TADLAR, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers, donc il y a déjà des choses qui existent, mais on a trouvé qu'on avait quand même quelques avantages par rapport à l'existant. Donc au niveau de l'hyperviseur, on est basé sur VirtualBox. VirtualBox a l'intérêt d'être portable, donc on peut à la fois le faire tourner sur Mac, Linux et Windows. Au niveau des systèmes hôtes, on est assez, assez diversifié, on supporte Windows, Linux et Mac. Sur les systèmes invités, on supporte à la fois Windows et Linux, c'est-à-dire qu'on va rajouter cette compréhension des processus, des threads et de tout l'écosystème pour ces deux systèmes d'exploitation principaux. Et enfin, un gros intérêt aussi, c'est au niveau des performances, c'est-à-dire on a vraiment tenu à garder des performances qu'on dit temps réel, c'est-à-dire impacter le minimum possible les performances du système analysé pour garder en fait une analyse la plus proche du réel. Donc c'est pour ça qu'on pense que Icebox apporte quelque chose déjà à l'heure actuelle. Donc notre approche Icebox, donc, c'est un projet qui est issu d'un projet qui a été présenté préalablement au STIC, qui permettait en fait de brancher un VirtualBox modifié avec un WinDBG. Donc on pouvait ensuite se connecter à ce VirtualBox à travers une IPC en utilisant une mémoire partagée. Donc l'intérêt de ce type de communication, c'est que ça permet d'avoir des performances très élevées et donc d'aller plus vite dans l'exécution et l'analyse. Donc on a fait ça avec une bibliothèque C++, toujours pour garder et préserver au maximum les performances temps réel. Et donc l'idée d'Icebox, c'est d'offrir une vue complète du système analysé, que ce soit au niveau applicatif et au niveau noyau. Vous voyez tout le système et vous n'avez aucune contrainte. Et donc ce socle-là, c'est d'avoir un socle performant et d'exposer une API la plus riche possible et la plus simple à utiliser pour accélérer le plus possible l'analyse et le développement des outils qu'un analyste va pouvoir faire pour l'analyse de malware. Et donc un exemple qu'on a pu faire en début d'année, c'est un POC qui montrait la faisabilité de tracer les allocations de mémoire d'une application en temps réel sans qu'il y ait d'impact visible sur les performances. Donc une petite présentation de l'architecture. Donc globalement, VirtualBox, c'est quoi? C'est un hyperviseur modifié. Donc pour le moment, on utilise VirtualBox, mais on ne s'interdit pas de brancher ça sur d'autres hyperviseurs dans un futur. On contrôle ensuite cet hyperviseur à travers IPC et on a un client natif qui est connecté et qui applique l'analyse. Ce client natif va pouvoir rajouter ensuite toutes les notions de d'helper, les symboles, les call stacks, les threads, les process comme on l'a vu précédemment. Donc l'intérêt aussi de faire à travers un hyperviseur, c'est d'avoir une furtivité un petit peu plus importante que si on tourne directement dans le système invité. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Et Icebox, nous, on a apporté aussi quelque chose en plus, qui vient notamment du projet WinBagility, c'est ce qu'on appelle les hyper-breakpoints. Donc c'est tout simplement des breakpoints furtifs, c'est-à-dire qu'on a la capacité de contrôler l'hyperviseur et de mentir en fait au système invité pour poser des breakpoints qui restent invisibles de la partie noyau et userland. Donc par exemple, on est capable de poser des breakpoints en exécution sur une page. On va dupliquer cette page en deux parties, une partie qui va être en lecture-écriture visible par le système et une version qui va être en exécution seulement. Et c'est dans cette version en exécution qu'on va poser le breakpoint. Et donc par exemple, si page guard, le système de protection Windows, revient tourner par-dessus et revient lire la page, il ne verra aucune modification malgré la présence d'un breakpoint qui sera effectif lors de l'exécution. Donc Icebox, ça propose les primitives de base, lecture, écriture de registre, de mémoire, le contrôle de l'invité, donc pouvoir lancer l'exécution, faire du single step. On rajoute à ça la manipulation d'entités, les processus, les threads, les modules, les drivers. On rajoute à ça aussi la gestion des symboles, donc support des fichiers PDB sous Windows et support des fichiers Dwarf sous Linux. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir une socle, un framework simple à utiliser qui propose les briques de base pour que l'analyste puisse travailler, enfin, on va dire, le plus facilement possible. Enfin, un petit point à ajouter aussi qu'on a par rapport à la concurrence, c'est qu'on gère les call stacks. Donc les call stacks, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous permet de poser sur un point d'arrêt, lorsque la machine est arrêtée, de remonter en fait la pile des appelants du code exécuté. Et ça, en fait, ça va nous donner une vision très précise et vraiment extrêmement utile pour l'analyste de savoir au niveau du code du malware qui exécute quoi. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a du code qui exécute de la crypto, du code qui exécute du réseau, on va pouvoir le voir. Et enfin, on a aussi rajouté la gestion des objets Windows qui nous permet de parcourir l'arborescence des globales au niveau du système Windows. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter l'application de tout ça sur un malware, NotPetya.
Donc, l'analyse de NotPetya va nous permettre de vous montrer, de mettre en évidence en fait différentes choses qu'on peut faire grâce à Icebox. Et donc, NotPetya, c'est un ransomware qui a été détecté en 2017. Et il fait un certain nombre de choses. Donc, on va pouvoir illustrer un certain nombre de choses. Donc, c'est un malware qui se duplique en mémoire de manière à pouvoir supprimer l'exécutable qui a été lancé. Ensuite, il va chiffrer les différents fichiers sur le système. Donc, c'est un ransomware. Il va modifier ce qu'on appelle le master boot record, qui est une sorte de paramètre de démarrage pour afficher un message de rançon au démarrage. Il va lancer d'autres processus pour notamment planifier ce redémarrage. Une fois qu'il a fait tout ça sur la machine infectée, il va chercher à se propager sur le réseau, sur les autres machines, donc notamment via le protocole SMB, et il installera des backdoors en fait, sur les autres machines pour qu'elles soient toutes infectées. Donc, si je trouve le bouton, celui-là. Hop. Donc voilà, une fois que votre machine est infectée, elle redémarre et vous avez un message de rançon. Donc à travers cette étude de NotPetya, je vais vous présenter trois outils qui vont vous mettre en évidence différentes choses. Donc le premier outil, c'est un outil de sandbox relativement classique. Au final, on décide de suivre tous les appels système et donc en fait de placer un breakpoint sur chacun des appels système du processus et d'éventuels processus fils qu'il pourrait créer. Comme ça, en fait, ça va nous permettre de pouvoir caractériser ce que fait le malware, s'il fait beaucoup de réseaux, si, etc. Donc à chaque déclenchement d'un syscall, on génère donc une call stack, c'est expliqué Benoît. Donc en fait, on peut remonter exactement, c'est cette instruction-là du malware qui a fait cet appel système, et donc on peut caractériser rapidement de cette manière-là. À chaque fois qu'il y a un syscall, on peut retrouver les arguments, donc c'est très pratique. Par exemple, s'il y a une écriture sur un fichier, on a le nom du fichier, on sait ce qui est écrit dans le fichier, etc. Et on génère un rapport donc, lisible par l'analyste. Et donc on détecte un certain nombre de choses. On voit que le malware scanne les adresses, scanne les différentes interfaces réseau, ce genre de choses. Et notamment, on détecte la planification du redémarrage. Donc si on regarde un extrait du rapport, on voit donc en haut à gauche qu'il y a eu un syscall, un appel système de création d'un nouveau processus. Si on regarde, bon, il y a les différents paramètres qui sont là, mais notamment celui qui est encadré en violet, en fait, ça nous informe que le nouveau processus, c'est le processus shutdown.exe qui est prévu donc, en redémarrage à une certaine heure. Donc on sait comme ça, juste en lançant l'analyse, le processus va vouloir redémarrer, lance un redémarrage. Et on voit à gauche, donc ça c'est le plus d'Icebox, c'est qu'on a une call stack par rapport à une sandbox classique. On voit tout en haut de la call stack, la pile d'appel, qu'il y a le fameux syscall. Et si on remonte, on voit précisément les instructions de NotPetya qui ont amené à syscall. Et donc en fait, nous ça accélère grandement nos analyses parce qu'on peut directement savoir dans l'assembleur quelle fonction mène à quel syscall ou quelle fonction ensuite fait des opérations réseau, etc. Donc ça accélère beaucoup l'analyse plutôt que de lire de l'assembleur de but en blanc, qu'on fait aussi, mais ça accélère. Donc voilà pour le premier outil. Ensuite, le deuxième outil, qui est un peu plus là, spécifique à Icebox par rapport à une sandbox plus classique, elle va nous permettre de visualiser l'infection réseau. Et donc en fait, c'est un outil de capture réseau, dont la sortie est visible directement de Wireshark, donc ça simplifie la visualisation. Et l'idée, c'est de placer des breakpoints noyaux sur les fonctions de réception et d'envoi de paquets. Donc comme on est à l'échelle du noyau, le kernel, on a vraiment absolument tout ce qui part depuis la machine infectée, la machine tracée, et donc on peut avoir vraiment savoir tout ce qui se passe au niveau réseau. Donc notamment les paquets envoyés par notre NotPetya. À partir de ça, en fait, toujours le même principe, Sur, au déclenchement d'une réception ou d'un envoi, on est capable de créer une call stack, donc une call stack qui est kernel, qui peut ensuite switcher, remonter en user land. Donc on peut vraiment associer un envoi depuis la fonction kernel à une instruction de notre Petya. Donc pareil, toujours pour accélérer grandement l'analyse. Et donc on voit les paquets réseau, donc on voit notamment l'endroit, le moment où il parle en SMB aux autres machines de manière à les infecter. Et on voit en bas à droite la call stack associée. Donc toujours pareil, ça accélère grandement l'analyse parce qu'on peut vraiment caractériser telle fonction, tel envoi de telle partie de la charge ou autre. Donc voilà pour le deuxième outil. Et le troisième outil qui donc là n'est plus du tout possible par le sandbox classique, c'est vraiment un plus d'Icebox. En fait, va nous permettre de, enfin nous met ici, je le refais, nous permet ici de mettre en évidence l'installation de la backdoor double pulsar. Donc pour vous expliquer rapidement, double pulsar, c'est donc une backdoor qui s'installe sur une machine infectée. En fait, chaque fois qu'une requête SMB est envoyée à une machine, il y a une fonction spécifique du driver qui gère cette requête-là. Et donc il y a quelques fonctions qui sont dites non implemented. Quand on regarde en bas du carré rouge, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des fonctions qui sont not implemented. Et en fait, ce que fait la backdoor double pulsar, c'est qu'elle vient s'installer en fait, dans ces fonctions kernel. Et donc ensuite, l'attaquant, sur une certaine requête SMB, va déclencher l'exécution de cette fonction-là. Donc c'est comme ça que fonctionne la backdoor. Et donc nous, en fait, grâce à Icebox, on peut détecter immédiatement que le malware est en train de l'installer, qui l'installe, en quoi consiste le code de la backdoor, quelle est la payload de la charge qui l'a faite, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et donc comment on fait ça? On utilise des pipe breakpoints d'Icebox et d'FDP. Et donc on vient contrôler en fait en écriture cette table de fonction qui gère en fait qui est exécutée sur requête SMB. Donc voilà, on contrôle l'accès en écriture. Dès que l'accès en écriture est fait, on déclenche un breakpoint. Donc on voit ici en haut de la fenêtre blanche qu'il y a un write access. Donc voilà, Icebox nous dit voilà l'état maintenant de la table de fonction. On voit que effectivement il y a une fonction non implemented qui a disparu, qui a été remplacée par une fonction donc qui est en fait la backdoor. On est capable de dire précisément quelle instruction a réalisé cet accès en écriture et donc de savoir directement, de pouvoir analyser directement la payload. Donc on a une petite vidéo qui va aller peut-être un peu vite, mais qui met ça en évidence. Donc si on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Donc voilà, en haut à droite, on a notre machine victime qui est un Windows 7, donc vulnérable. À gauche, on a la machine attaquant qui est ici, pour simplifier, un Ubuntu avec un Metasploit, donc qui va être en fait envoyé Eternal Blue et Double Pulsar sur la machine victime. En bas à droite, on a notre terminal sur notre machine hôte qui va faire tourner le programme Icebox. Donc ici, PageBreak qui est fait avec Icebox, qui va tracer la machine victime, donc en haut à droite. Donc on lance le tracing, on lance l'analyse, en fait, on se place en analyse de la machine victime. On load les différents symboles des drivers donc pour associer des noms à une adresse dans la mémoire. Donc on trouve notre fameuse table dont je vous parlais tout à l'heure. On vient placer un page breakpoint, donc on contrôle l'accès en écriture, et on lance l'exploit. Donc voilà, vous voyez, le launching Eternal Blue, ça envoie donc la charge sur la machine et installe la backdoor double pulsar. On attend que l'accès en écriture se fasse. Et voilà, on voit donc ici page breakpoint trigger, donc l'accès en écriture a été fait. On sait quelle instruction précisément l'a fait, qui correspond à la charge malveillante. On dump cette charge malveillante dans un fichier à nous pour l'analyse plus tard. On voit ensuite cette fameuse table avec la fonction qui a été transformée, donc la backdoor installée à la place de non implemented ici. Donc ça, c'est la backdoor, donc la fameuse backdoor. On dump la mémoire également de cette backdoor dans un autre fichier. Et ensuite, si on lance un logiciel qui s'appelle IDA, qui nous permet de désassembler, et c'est un logiciel qu'on utilise dans nos analyses, l'analyste doit faire quelques réglages, donc je vous passe les détails. Et si on retourne, on voit par rapport au DOM qu'on a fait, par rapport à l'offset, etc., c'était à l'adresse B74, on regarde l'adresse B74 dans ce qu'on a dumpé, on désassemble et on retrouve bien un accès en écriture. Donc là, ça a facilité grandement le travail de l'analyste qui peut directement dire, tiens, c'est la charge, je peux analyser, remonter, etc. Donc ça accélère vraiment le travail de l'analyste. Et il peut faire de même avec la backdoor en elle-même. On voit que par rapport au dump, on avait à l'offset 60 la fameuse backdoor. De même, il peut arriver à voir directement l'assembleur, et tout est fait pour lui, et il n'a plus qu'à analyser ce qu'il faut pour son analyse de malware. Donc voilà les différentes choses qu'on peut faire assez rapidement avec Icebox pour analyser un malware.
Voilà, donc après Icebox reste quand même un projet en cours, on a plein de choses à faire, on a plein d'idées, donc parmi les perspectives évolution, un des premiers points qui serait intéressant, c'est d'augmenter la furtivité, parce que dans l'état actuel, on a la furtivité de base d'un hyperviseur, on a un peu de furtivité au niveau du breakpoint, mais il existe plein de méthodes pour un malware, pour détecter en fait qu'il est en train de s'exécuter à travers une machine virtuelle. Donc, par exemple, Pafiche qui possède de nombreuses heuristiques de détection. Donc, l'idée, ça serait d'améliorer en fait la furtivité au niveau de l'hyperviseur. C'est quelque chose qui est possible puisque on contrôle finement et exactement en fait l'exécution du programme virtualisé. Mais bon, c'est pas, il y a des choses à faire là-dessus. C'est pas terminé. La même idée pour le moment, on est seulement mono CPU pour des raisons de simplicité. Ça serait pas mal d'avoir le support du multi-CPU puisque les machines actuelles maintenant sont toutes multi-CPU. Il y a aussi une idée de compléter les outils d'analyse, donc nous on a quand même fait pas mal de temps à développer le socle, d'essayer de rendre ça robuste, de proposer les primitives et l'API nécessaires pour travailler. On a commencé à développer des idées, des outils, mais c'est vraiment maintenant qu'il y a plein de choses à faire au niveau des outils d'analyse pour que ça soit plus performant, plus efficace, rajouter de la visualisation sur les résultats et aller beaucoup plus loin en fait sur la compréhension des logiciels analysés. Et enfin, on pourrait aussi envisager le support d'autres back-ends, comme par exemple QEMU, KVM ou autres, ou Hyper-V, si possible, pour par exemple nous offrir d'autres opportunités ou alors contourner des techniques de détection qui vont marcher peut-être que sur VirtualBox, ou pas KVM, ou pas QEMU. Voilà. Et donc, en conclusion, voilà, Icebox, un socle qu'on pense furtif, parce qu'on travaille avec un hyperviseur modifié, on supporte les hyper breakpoints qui nous rajoutent un minimum de furtivité. C'est une solution rapide, on a fait une architecture qui est orientée performance pour garder le temps réel sur l'analyse et les logiciels exécutés. C'est une solution qu'on pense portable, vous pouvez exécuter Icebox et la partie VirtualBox à la fois sur Windows, Linux et Mac pour les systèmes hôtes. Et enfin, c'est une solution moderne parce qu'on supporte à la fois la version Windows 10, la dernière version, et les Linux en version avec les noyaux 5.x en invité. Donc l'idée, c'était d'offrir un socle commun open source avec une API riche en introspection à travers un hyperviseur. Ça va vous permettre d'analyser le système entier de l'applicatif jusqu'au noyau sans limitation au niveau du système. Vous pouvez aller lire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller hooker toutes les fonctions qui vous intéressent. Et donc à partir de là, y a plein de choses, c'est un domaine qui est encore en friche et on pense qu'il y a plein de choses à faire sur cette partie-là. Et des nouvelles analyses, des nouveaux types d'analyses sur les logiciels et les malwares. Voilà, donc pour rappel, ce projet, le socle est open source et disponible sur GitHub, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci Benoît, merci Yves. Lucas, pardon. Et voilà. Là, c'est moment pour les questions. Je ne vois pas de main se lever. Ah si, petite main là, celle d'Erwan au milieu.
Merci pour cette présentation. Du coup, pour l'instant, Icebox, faut développer pour pouvoir utiliser l'outil. Ça marche comment pour un utilisateur qui veut utiliser ce...
Ouais. Alors en fait, donc à l'état, c'est vraiment un framework. Donc en fait, c'est vraiment une boîte à outils. Et après, à l'analyste, en fonction de ce qu'il veut faire, de se dire tiens, je vais faire un programme. Je vais prendre un peu ce que je veux sur, entre guillemets, l'étagère, les fonctions qui m'intéressent, de dire, tiens, je vais analyser les drivers, donc je vais charger les symboles des drivers. Ah, bah ensuite, je vais lire de la mémoire, donc il me faut un truc pour lire, enfin, il me faut l'objet qui lit la mémoire, etc. C'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment un framework, c'est pas du tout un débugger interactif en l'état.
Il y a un point que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que pour le moment, on a une API en CPP, mais on envisage de faire aussi des bindings Python pour faciliter le prototypage pour les analystes, pour qu'ils n'aient pas à recompiler du code ou autre. Et pour la partie debugger, c'est clairement quelque chose, une évolution qui est possible. Il est vraiment envisageable en fait, de brancher, par exemple, un GDB, un serveur GDB, d'émuler un serveur GDB pour brancher en fait, des debuggers classiques directement sur la partie Icebox.
On a le temps de prendre une question, une autre question. Tout en bas à droite. Bah oui, très bien, Yves.
Bonjour, merci pour la présentation. J'avais juste une petite question, vous parliez de détection de sandbox. Donc est-ce qu'il y a actuellement, vous connaissez des malwares qui sont capables de détecter votre modification d'hyperviseur, ou est-ce que c'était juste parce que vous n'y étiez pas sûr?
Alors en l'état, non, on n'a pas travaillé là-dessus. En gros, en l'état, nous, l'aspect vraiment furtif qu'on utilise, c'est le côté, on peut vraiment inspecter le noyau où on veut, sans qu'on parte en blue screen, sans que Windows crash quoi, ou ce genre de choses. Mais on l'a pas encore utilisé pour passer un malware qui pourrait détecter une éventuelle sandbox.
La furtivité, c'est clairement une piste d'évolution possible. On a juste la furtivité de base.
On a la furtivité envers l'OS.
Ouais. Ouais.
Après, c'est débranchable et branchable sur un hyperviseur plus furtif éventuellement, où il y a des travaux en cours là-dessus.
Bien, merci Benoît et Lucas. On peut les applaudir encore une fois.